9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon week-end. On va commencer par revenir sur le rapport Sauvé qui estime à 216 000 les mineurs victimes d'abus sexuels au sein de l'Église catholique depuis 1950. Le psychiatre Walter Albardier est mon premier invité ce matin. Je recevrai ensuite Cyril Hanouna pour son livre « Ce que m'ont dit les Français ». On va parler télévision et politique. Et l'on terminera l'émission avec la chanteuse Daphné Critaras qui sort un nouvel album, « Varka » et sera en concert demain soir à l'Alhambra. Walter Albardier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, responsable du CRIAVS Île-de-France. C'est le centre ressources pour intervenants auprès d'auteurs de violences sexuelles. Vous soignez des pédophiles, des pédocriminels. Le rapport Sauvé vous a-t-il surpris?
Alors d'abord, on l'attendait, c'est sûr. Alors, en partie, moi, il m'a surpris parce que je trouve qu'il n'a pas donné beaucoup d'informations concernant, peut-être, ou de recommandations concernant les personnes qui se rendent coupables de violences sexuelles au sein de l'Église. Pour autant, c'est vrai que sa dynamique, elle était plutôt construite sur la parole des victimes et finalement, les recommandations ont surtout porté là-dessus et sur la reconnaissance des actes. Après, concernant les chiffres, concernant... le constat qui est fait, un peu comme tout le monde, on est et surpris et pas surpris. On savait qu'il y avait quelque chose de très important qui s'était passé et qui se passe encore dans cette institution. Voilà.
Depuis la publication du rapport Sauvé, on a beaucoup entendu que l'ampleur des abus sexuels sur mineurs dans l'Église catholique était due au célibat des prêtres, que s'ils avaient le droit de se marier, ce serait différent. Ce qui sous-entend que la seule chose qui empêche la majorité des hommes d'être pédocriminels, c'est d'avoir une femme. S'ils n'en avaient pas, ils s'attaqueraient tous à des petits garçons, vous le pensez?
Alors d'abord, je ne l'espère pas, parce que je rappelle quand même que le célibat, il est très dans une évolution très favorable dans notre société.
Hein, il y a de plus en plus de célibataires.
Il y a de plus en plus de célibataires, il y en a près de 50% à Paris, donc je pense que, j'espère que finalement ce n'est pas la cause unique de la question. Surtout, soyons sérieux, aussi dans l'Église, c'est un tiers des agressions sexuelles qui sont commises par des laïcs, qui ne sont pas finalement tenus au célibat. Par ailleurs, la grande majorité des violences sexuelles en France, elles sont commises, on le sait aujourd'hui, au sein de la famille. Et donc la question du célibat n'est vraiment pas en cause. Finalement, on sait que le mariage ne protège pas d'idées pédophiles éventuellement, ou en tout cas de passage à l'acte sexuel sur les enfants.
Mais alors, comment expliquez-vous le caractère systémique? Est-ce que c'est l'Église catholique qui attirerait dans ses rangs, ou qui aurait attiré dans ses rangs, plus de pédophiles que la moyenne?
Alors d'abord, je ne pense pas qu'on rentre dans une carrière, entre guillemets, de prêtre parce qu'on est pédophile. Je pense que l'expérience que j'en ai, et même d'ailleurs dans les gens que j'ai suivis, elle n'est pas du tout celle-là. Elle est peut-être que finalement, dans cette institution qui a été longtemps finalement très close sur elle-même, qui a donné peut-être une place très particulière et une autorité très particulière à ces personnes, finalement, elle a pu laisser... probablement aveuglément, la place à des dérives comportementales. Mais c'est aussi, au fond, peut-être la leçon à prendre sur la question de l'Église, mais aussi sur la question dans notre société. C'est la leçon à prendre là-dedans. C'est vraiment la question de comment quelqu'un qui est en position d'autorité, qui est en position de domination, peut se comporter, et ça, prêtre ou pas.
Pourquoi il y a si peu de filles victimes dans l'Église, d'après le rapport Sauvé, et alors qu'elles sont bien plus nombreuses à être victimes que les garçons dans leur famille?
Alors, je ne dirais pas qu'il y a peu de filles, il y en a beaucoup, mais il y a encore plus en proportion de garçons. Puisqu'en population générale, on sait qu'on est autour de 15% de jeunes filles qui ont été agressées sexuellement dans l'enfance, contre 6 ou 7% de garçons, et que là, les proportions sont bien plus en faveur des garçons. Bah, déjà, peut-être parce que cette recherche, c'est l'état des lieux qui a été fait, il est fait depuis 1950, et que depuis 1950, les prêtres ont été pendant longtemps beaucoup plus au contact direct des garçons, au contact direct des garçons dans les internats, dans les camps de scouts, dans les camps d'activités qu'ils pouvaient avoir avec eux, etc. Et que d'un coup, forcément, il y a quelque chose de l'ordre de l'opportunité qui s'est joué, hein, probablement.
C'est quoi un pédophile?
Alors, Un pédophile, pour un médecin, c'est quelqu'un qui peut avoir des fantasmes ou des comportements, mais d'abord des fantasmes sexuels autour des enfants. Et a priori, même pour les médecins, c'est d'enfants impubères, hein, avant la puberté. Nous, on aime bien distinguer ce qui est de l'ordre de la pédophilie, c'est-à-dire des gens qui sont sexuellement attirés par des enfants, de pédocriminels qui passent à l'acte sur des enfants, ce qui est très différent.
Tous les pédophiles ne passent pas à l'acte.
La grande minorité des pédophiles passent à l'acte, et la grande et une minorité de gens qui passent à l'acte sont sexuellement attirés par des enfants. Ça, c'est souvent très compliqué à comprendre. Mais d'ailleurs, dans le rapport Sauvé explique bien qu'a priori, sur les gens qu'ils ont rencontrés et sur les auteurs d'agressions sexuelles qu'ils ont rencontrés, mais aussi sur les dossiers qu'ils ont expertisés, c'est environ 10% des gens, des prêtres qui ont commis des actes sexuels déviants, qui sont sexuellement attirés par des enfants.
Ce serait donc, comme vous le disiez, l'opportunité, au fond, qui aurait créé le crime.
Alors, c'est l'opportunité, ça, si on regarde ça de façon un petit peu criminologique, mais au niveau psychologique, c'est parfois de l'opportunité, c'est parfois de la confusion des langues, la confusion des espaces, parfois une immaturité chez l'auteur, qui fait que, chez la personne, qui fait qu'elle se perd dans une relation avec un jeune. Et c'est en ça que je crois que c'est une leçon à prendre aussi pour l'ensemble des gens qui travaillent auprès d'enfants dans notre société, au-delà même de la prêtrise et de l'Église.
Ce serait 3000 prêtres environ, selon le rapport Sauvé, qui se seraient livrés à l'ensemble de ces actes. Ça paraît très peu, 3000 prêtres.
Alors, ça paraît vraiment très peu. Et ça paraît beaucoup, beaucoup de victimes pour si peu de prêtres. Alors, 3000 prêtres, et puis on ne sait pas combien, c'est pas très clair dans le rapport Sauvé, de laïcs, hein, quand même, puisque un tiers des actes seraient commis par des laïcs. La question, au fond, c'est peut-être aussi de savoir combien finalement d'actes sont passés sous silence, combien d'actes sont ambigus, hein. Alors c'est assez facile spontanément de vouloir un petit peu stigmatiser quelqu'un qui serait passé à l'acte, etc., et qui finalement de les comptabiliser. Peut-être qu'il y a aussi des actes qui ont été intrusifs et qui ne sont pas répertoriés, avec des auteurs qui ne sont pas répertoriés.
On fait une pause, Walter Albardier, on se retrouve juste après.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec le psychiatre Walter Albardier, le responsable du CRIAVS Île-de-France, le centre de ressources pour intervenants auprès d'auteurs de violences sexuelles. Vous soignez des pédophiles, des pédocriminels, je l'ai dit. Est-ce qu'il y a des femmes pédophiles ?
Alors, il y a des femmes qui passent à l'acte au niveau...
Donc pédocriminelles, à ce moment-là.
Il y a des femmes pédocriminelles. Il y a aussi, en population générale, des femmes qui peuvent être sexuellement attirées par des enfants. Alors, c'est quelque chose qui est souvent mis, finalement, un petit peu qui est caché. Et dans le rapport Sauvé, d'ailleurs, on parle environ 10% de femmes, hein, qui étaient responsables des actes communs.
Donc, bonnes sœurs,
personnes qui sont responsables du catéchisme, qui sont responsables de l'aumônerie, qui sont surveillantes dans les internats. Oui.
Ça apparaît à quel âge ?
Alors, la vraie pédophilie, les gens qui sont sexuellement attirés par les enfants.
Donc, qui ne se contentent pas de fantasmer ?
Alors, si, qui sont pris par une sexualité ou dans laquelle ils sont attirés par les enfants.
Parce que vous dites les vrais pédophiles, il y aurait. Alors, vous faites la distinction avec quoi ?
Avec peut-être les pédocriminels. La pédocriminalité, je crois qu'elle peut arriver à n'importe quand dans la vie, sur des gens déstabilisés, sur des gens immatures, sur des gens qui sont dans une position de toute puissance, sur des gens qui peuvent être finalement dans des moments de fragilité, de vulnérabilité. C'est toujours compliqué à parler de vulnérabilité, à être agressif, mais oui, c'est ça. Et quand je parle de vrais pédophiles, pour moi, ce sont les gens qui souffrent, souvent de façon... qui se retrouvent sexuellement attirés par des enfants dans la constitution même de leur sexualité. Alors,
c'est ceux-là qui viennent chez vous.
Ceux-là viennent chez nous, et puis les viennent chez moi, mais aussi ceux parfois qui peuvent se trouver en difficulté dans leur rapport avec les enfants plus tardivement. On a d'ailleurs développé un numéro d'appel pour aider les gens qui sont sexuellement attirés par les enfants. Alors je le dis vite fait, c'est le 0806 23 10 63. Et depuis un an, l'ensemble des CRIAVS, on a reçu près de 3000 appels. Hein, de personnes qui se retrouvent ou qui s'interrogent sur leur rapport avec la sexualité, avec les enfants. Pour beaucoup de pédophiles, pour de gens pour lesquels finalement ils se retrouvent, ils ont des attirances sexuelles avec les enfants, ça arrive souvent, alors souvent, pas toujours, il n'y a jamais de toujours en psychologie, dès l'adolescence. C'est-à-dire qu'on commence à s'émouvoir pour un camarade de classe en sixième, et puis on est en cinquième et on regarde dans la classe d'en dessous, et puis quand on commence à être au lycée, on continue à être attiré par les petits copains du collège. C'est souvent des choses qui nous sont rapportées par les patients, hein. C'est souvent quelque chose comme ça. Parfois, pour d'autres, c'est plus tardif, et ça peut être à l'issue d'une frustration importante, d'une grande désillusion relationnelle, etc., que les choses se replient vers quelque chose de plus rassurant, d'une image plus rassurante de celle de l'enfant.
Est-ce que ça se soigne, la pédophilie ?
Bien sûr, ça se soigne. Ça se soigne parce que, alors, par différents procédés, selon finalement les problématiques de chacun, on a un nombre important de personnes. Alors, selon les cohortes, entre 20 et 90%, donc je vais vous dire que j'en sais rien. Moi, dans mes cohortes, en tout cas, dans les patients que je suis, j'ai environ 45 à 50% des patients qui ont d'abord des traumatismes, qui ont rencontré de façon trop précoce, très précoce, la sexualité de façon un petit peu violente, enfin, ou violente, c'est-à-dire qu'on peut être abusé sexuellement, parce qu'une des destinées d'être agressé sexuellement, c'est de répéter finalement des agressions, hein, de ce traumatisme.
Mais tous ceux qui ont été victimes d'agressions sexuelles quand ils étaient enfants ne deviennent pas pédophiles.
Bien sûr que non, bien sûr que non. Et dans l'autre sens, tous les gens qui ont commis des actes sexuels ne sont pas non plus, n'ont pas été abusés sexuellement. Hein. Mais c'est une possibilité d'évolution de ces traumatismes, comme de se remettre en position de danger, comme de vivre. Et voilà, il y a beaucoup, beaucoup de conséquences psychologiques. En tout cas, chez les gens qui ressentent une sexualité, qui sont attirés sexuellement par des enfants, une partie d'entre eux, c'est là-dessus qu'on va travailler, sur ces traumatismes. Pour d'autres, c'est finalement sur une estime d'eux, sur une dépression, sur un rapport à l'autre. Et c'est bien souvent ça qui est en jeu. Et moi, je fais le pari que sur la question plus que du célibat, la question de la maturité affective, du rapport à l'autre, de l'éducation, parfois simplement hein, dans la relation, sur l'éducation de ressentir ses affects, c'est quelque chose d'important. On sait par exemple que dans l'Église, finalement, la sexualité, et encore plus l'homosexualité, a été extrêmement compliquée et tabou, et probablement qu'il y a quelque chose à travailler aussi avec ça.
Walter Badier, est-ce qu'un pédophile est encouragé à se déclarer et peut venir vous voir pour être soigné facilement? Vous avez donné un numéro de téléphone, mais au fond, est-ce qu'on les considère comme de tels monstres?
C'est un peu le problème de notre société, c'est qu'il faudrait qu'on puisse aujourd'hui avoir recours à un soignant quand on est pris par ces fantasmes-là. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir aujourd'hui grâce à ce numéro, et puis on espère que peu à peu aussi des gens qui ne sont pas seulement sexuellement attirés par des enfants, mais qui sont dans des relations avec des enfants et qui se sentent perdus dans ces relations-là, ou bien qui constatent que leurs collègues qui dans une école, qui dans un centre aéré, qui dans un club sportif a des attitudes un peu atypiques avec un enfant, puissent en parler ou puissent finalement que ça puisse se parler dans notre société.
Il y a un certain nombre de préconisations dans le rapport Sauvé. Il faut que l'Église ne soit plus dans le déni. Il faut qu'elle reconnaisse sa responsabilité. Il faudrait vérifier, revérifier systématiquement les antécédents judiciaires des personnes affectées auprès des enfants. Ça vous semble les bonnes recommandations? Vous en auriez vu d'autres, vous?
Alors, je pense qu'il y en a. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont déjà entreprises par l'Église. Hein. Pour être très clair, l'institution de l'Église en France n'est pas la plus fermée sur cette question-là. Elle a déjà eu le courage de remettre des choses en cause et de demander cette commission qui était indépendante, ce qui n'a pas été forcément le cas et ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres institutions. Après, bien sûr qu'il y a, il y a plein de recommandations, et les recommandations sont toutes, à mon avis, assez finalement riches. Moi, je reproche, je crains juste que ne soit pas assez prise en compte la question, parce que c'est une question qui pose question. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens qui sont passés à l'acte? Comment on les intègre ou pas dans la société? Comment on les dirige vers le soin? Comment on apprend à parler au sein de cette institution de la sexualité, du corps, du désir? Et comment, finalement, on peut-être bouger un petit peu les lignes de ce côté-là? D'abord, il y a eu beaucoup de reproches qui ont été faits à l'Église sur savoir ce que devenait, peut-être qu'il protégeait les personnes qui passaient à l'acte. Peut-être qu'il aurait été intéressant qu'il y ait des recommandations qui soient faites sur ce champ-là.
Merci Walter Albardier. On fait une pause, on se retrouve juste après avec Cyril Hanouna.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Bonjour Cyril Hanouna.
Bonjour Frédéric Taddeï, je suis très heureux d'être là.
Merci, vous êtes gentil. Vous publiez « Ce que m'ont dit les Français » aux éditions Fayard avec la collaboration de Christophe Barbier, l'ancien directeur de l'Express. Alors je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il publie un livre? Et en fait, après l'avoir lu, je me suis dit, c'est pour expliquer à ceux qui ne regardent pas vos émissions et qui ont sur vous un certain nombre d'idées arrêtées, que vous n'êtes plus le même et vos émissions non plus.
Ça tient beaucoup à ça parce que, en fait, maintenant avec les réseaux sociaux, c'est qu'il y a des gens qui s'arrêtent sur des petits passages, qui ne voient jamais l'émission. Et je dis souvent, bien sûr, tout le monde n'aime pas l'émission. Il y en a qui la regardent, qui n'adhèrent pas. Mais la plupart des gens qui détestent l'émission, ce sont qui ne l'ont jamais regardée, qui ont vu des petits passages sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Insta. Et c'est vrai que c'était pas mal pour remettre les choses en place, pour revenir sur des sujets qui ont pu faire polémique, sur des positions que j'ai prises, qui ont pu un petit peu fâcher. Mais parce que quand vous sortez un extrait de son contexte, forcément, ça peut fâcher parfois et ça peut être mal pris.
Et puis je crois que c'est aussi parce que vous pensez que vous avez droit à une deuxième chance. Vous croyez à la rédemption, vous croyez à la deuxième chance. Vous pensez que les individus sont susceptibles de s'améliorer?
Ah vraiment? Alors c'est une très bonne lecture du livre parce que c'est ça. C'est que vraiment, moi je suis pour le dialogue et pour la deuxième chance. C'est vrai qu'on condamne souvent des gens qui ont déjà été condamnés et on leur laisse pas de deuxième chance. Et moi voilà, sur mon plateau, moi je le dis, j'ai fait plein d'erreurs, bien sûr. J'ai fait des erreurs. Je dis pas que je regrette tout ce que j'ai fait. Parce qu'il faut jamais regretter parce qu'on est dans un mood spécial et que c'est à l'époque on l'a fait, on avait besoin de le faire. Mais c'est vrai qu'il y a des choses que je ferais autrement aujourd'hui. Et la société, elle va tellement vite aujourd'hui. Elle évolue tellement vite. Elle évolue aussi vite que les réseaux sociaux, aussi vite que les buzz qu'il peut avoir d'un jour à l'autre. Et c'est vrai que, voilà, moi aussi, j'évolue, j'ai évolué. Et j'espère encore évoluer positivement. Mais je dis pas que ce que je faisais avant, je le regrette et je dis que c'était pas bien. Je dis que c'était fait pour l'époque dans laquelle on vivait. Et qu'il faut évoluer. Voilà, aujourd'hui, je ne ferai pas les mêmes choses que ce que je faisais il y a 10 ans.
Mais plus généralement, Cyril Hanouna, j'ai l'impression que vous avez confiance dans le genre humain. En ce sens, vous êtes de gauche.
Non, mais j'ai confiance. Ce que je disais, j'ai confiance encore. Je suis un des seuls à avoir encore confiance. Enfin, pas confiance, mais avoir espoir dans les hommes politiques. Voilà, peut-être que je me trompe complètement. Il y a un truc qui. Le seul truc qui me dérange, ce que je disais la dernière fois, c'est que je rends tout le monde sympathique sur mon plateau parce que j'essaie toujours d'essayer de trouver la part de sympathie, d'empathie qu'il y a chez des individus même avec lesquels je n'ai aucun point commun, sur lesquels mes idées divergent sur tous les sujets. Et à chaque fois, je me dis, mais en fait, je l'ai rendu sympathique. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Parce que c'est peut-être aussi pas bon parfois de les rendre trop sympathiques des individus qui ont des idées extrêmes.
Je dis que vous êtes de gauche sur ce plan-là, mais en revanche, vous croyez aux vertus de la compétition. Hein. Vous voulez être le premier, vous avez toujours un œil sur les audiences pendant votre émission. Si elle baisse, vous changez de sujet. Si elle dégringole, vous rendez carrément l'antenne. Cette culture du résultat serait plutôt de droite.
Alors, c'est pas droite, c'est que je suis un sportif. Voilà, c'est tout le monde me dit comment tu fais pour être toujours en forme, etc. C'est vrai que je fais énormément de sport. Et même dans le sport, je suis un fou, c'est-à-dire que je suis dans la compétition permanente. C'est-à-dire que quand je commence un sport, je veux absolument être dans des compétitions, faire des tournois, faire des compétitions. J'ai toujours été comme ça depuis que je suis petit. Et la télé, moi, en fait, la télé, c'est un peu une revanche pour moi. Je vous jure, à chaque fois, moi, j'avais l'angoisse des notes à l'école. Et à chaque fois qu'on rendait une copie ou qu'on avait les bulletins qui arrivaient, j'avais un poids immense. Je ne dormais plus parce que je savais que mes parents, mon père est médecin, il travaillait, voilà, pour lui, il regardait, il scrutait mon bulletin. Ma mère aussi voulait que je travaille très très bien à l'école. Mon père voulait que je fasse médecine. Et les notes tous les matins, aujourd'hui c'est les audiences. Et je me dis, c'est vrai que je du bois, et c'est vrai que je me dis, ça fait 10 ans que j'ai des bonnes notes, ce qui m'est jamais arrivé à l'école.
Est-ce qu'il ne vous est pas toujours arrivé à la télé non plus,
exactement.
Hein. Pendant
très
longtemps, vous s'ouvriez.
Mais pendant 10 ans, j'ai eu que des mauvaises notes à la télé aussi. Donc j'ai enchaîné les échecs à l'école, les échecs à la télé, les échecs sentimentaux, j'en parle pas. Donc voilà, et après, c'est vrai que j'attends les audiences et je me dis, voilà, c'est un peu ma note. Tous les jours, j'ai une note. On me rend mon contrôle, voilà, tous les jours, tous les matins, 9h02.
C'est la révolte des Gilets jaunes, dites-vous, qui vous a changé, qui vous a poussé à métamorphoser vos émissions. Aujourd'hui, vous voyez votre plateau comme un rond-point où tout le monde peut se rencontrer.
C'est ça. C'est vrai que quand j'ai reçu les Gilets jaunes, en fait, parce qu'il y a l'émission et il y a un avant et un après dans les émissions. Vous avez fait un talk magnifique, je le dis à chaque fois, hein, voilà, pendant des années. Et je suis sûr que vous aussi, quand les invités partaient, quand il y a eu des gros témoignages, quand on a vu des gens en détresse sur le plateau, on se dit, il y a deux choses. Ou bien on les laisse rentrer chez eux. Nous, on a fait notre truc. et on se dit, tiens, on va voir demain ce qui va se passer dans une autre émission, ou bien on essaie de leur parler derrière, d'essayer de voir ce qu'ils ont dans le cœur, ce qu'ils ont dans le ventre, ce qu'ils ont envie de faire, et essayer peut-être de les accompagner un petit peu. Et les Gilets jaunes, moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai beaucoup discuté avec eux après les émissions. On s'est vu en loge, on a parlé, j'ai vu leurs difficultés, j'ai vu des gens, juste, je le dis à chaque fois, j'ai vu juste des Français en difficulté qui me disaient, Cyril, on n'en peut plus. En fait, on a voté à droite, on a été dans la merde. On a voté à gauche, on a été dans la merde. On a voté au milieu, on est toujours pareil. Pour nous, on a l'impression que rien ne bouge. On ne croit plus en rien. Et maintenant, on croit en une chose, c'est nous. On a envie de faire bouger les choses et de se dire, on se réunit tous les samedis. Déjà, aussi, il y avait aussi une dimension sociale dans les Gilets jaunes parce qu'ils étaient très heureux de se retrouver tous les samedis. Non, c'était aussi un moyen de se retrouver socialement, de parler, de discuter, de se faire des amis. Ça a joué aussi, hein, parce que ça, c'est un truc que on en a jamais parlé, mais il y a ça aussi. Et ils se sont dit, tiens, pourquoi essayer de faire bouger les choses ensemble ? Alors après, ils ont été malheureusement investis et par des gens qui étaient pas là pour les bonnes raisons. Il y a 5-10% de casseurs qui se greffaient à eux et qui ont fait beaucoup de mal au mouvement.
On fait une pause, Cyril Hanouna, on se retrouve juste après.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Cyril Hanouna qui publie « Ce que m'ont dit les Français » aux éditions Fayard. J'ai l'impression, Cyril, que ceux que vous voulez convaincre que vous avez changé, ce sont d'abord et avant tout les politiques.
Pas vraiment. Alors,
il y a tous ceux qui ne sont jamais venus. Vous aimeriez tellement qu'ils viennent.
C'est ça, Frédéric, mais je trouve que ça évolue très vite chez eux. Et ceux qui m'aiment pas vraiment, il y a la population voilà, qui se dit « Ouais, Hanouna, on va pas regarder, c'est des conneries, etc. » qui commencent à changer. Mais les politiques, c'est assez rapide parce que là, en plus, il y a une échéance. Donc forcément, ils prennent plus vite la décision. Aujourd'hui, comme je dis à chaque fois, on me dit « Tu regardes les audiences. » Je dis « Mais je regarde les audiences, pourquoi ?» Parce que je suis pas le seul à les regarder. Si les hommes politiques viennent de plus en plus dans l'émission, c'est qu'ils se disent « On parle à des gens à qui on peut pas parler sur les autres émissions. » Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est premier talk sur les 15-34 ans, que sur les 25-49, on est très très fort tous les soirs. Et c'est vrai qu'ils se disent « C'est des gens, les 15-34 ans, voilà, ils vont aller voter en avril prochain. » Et c'est vrai que sur les autres émissions, on a du mal à les capter. On les capte sur les réseaux sociaux, mais à la télévision, beaucoup moins.
Vous dites dans ce livre que les Républicains et le Parti Socialiste n'ont pas compris ce qui s'est passé dans le paysage audiovisuel français. Pas la peine de chercher ailleurs la coupure entre les politiques et le peuple, dites-vous. Ça explique pour vous qu'Emmanuel Macron ait réduit le PS à néant et que Éric Zemmour soit en train de faire la même chose avec les Républicains ?
Mais je vais vous dire, bizarrement, les extrêmes ont tout compris aux médias. Que ce soit la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, c'est une bête de médias, il a tout compris. Il sait où il faut aller, c'est le premier. Jean-Luc Mélenchon est venu sur mon plateau. Premier homme politique à être venu sur mon plateau, c'était il y a bien longtemps. Et lui, tout de suite, a dit « Je vais aller chez Hanouna parce que je pense que je vais aller parler aux jeunes. » Et d'ailleurs, en 2017, Jean-Luc Mélenchon fait un score incroyable sur les jeunes. Pas grâce à moi, mais parce qu'il a fait toute sa campagne. Il a été parler aux jeunes, il a été excellent. Emmanuel Macron, on le voit sur les réseaux sociaux, c'est le meilleur aujourd'hui de tous les candidats qui vont se présenter. On ne va pas se mentir. Avec Éric Zemmour, qui est quand même pas mauvais non plus. Mais Emmanuel Macron, il a une vraie culture des réseaux sociaux. Je pense qu'il a une vraie équipe qui lui dit voilà comment faire sur les réseaux sociaux. Et lui aussi, c'est le premier, le deuxième à être venu, pas sur mon plateau, mais avoir fait un truc avec moi. C'était, je suis allé à sa rencontre à la sortie de TF1 lors du débat d'entre deux tours. Quand on prend Éric Zemmour, on voit tout ce qu'il fait dans les médias. Les seuls qui sont un petit peu trop traditionnalistes, d'ailleurs, comme leur parti au niveau médiatique, c'est le PS et les Républicains. Je sais que ça bouge vraiment là sur les Républicains. Je sais que je vais avoir pas mal de gens des Républicains qui vont venir. Et forcément, je vois que ça bouge chez eux. Je vois même Xavier Bertrand qui fait beaucoup de choses sur Insta de plus en plus.
Mais pardon de vous interrompre, Cyril Hanouna, mais je me dis, imaginons qu'ils viennent tous ceux qui ne sont jamais venus, Anne Hidalgo, Jean-Michel Blanquer, et pourquoi pas même le président de la République.
Alors
en
Jean-Michel
personne.
Jean-Michel Blanquer est revenu il y a deux semaines.
Ah, bah pardon.
Voilà, il est venu.
Il est enfin venu. Livre, vous l'attendiez. Oui. Où Emmanuel Macron, le président de la République en personne. Je comprends bien la satisfaction personnelle que vous éprouveriez, tous les animateurs de télé rêvent d'avoir le président de la République dans leur émission, surtout s'il vient sur leur territoire et qu'il accepte leurs règles. Mais vous êtes lucide aussi. Vous savez bien que ça n'aboutira à rien. Pas plus que si tout le gouvernement et l'opposition défilent sur votre plateau. Votre grand débat avec Marlène Schiappa et les Gilets jaunes n'a abouti à rien, vous le dites vous-même dans le livre. Aucune des propositions qu'elle a listées ce soir-là ne s'est concrétisée d'aucune manière.
Mais je vais vous dire pourquoi je fais ça. C'est parce que moi, mon seul truc, c'est que je voudrais que le maximum de monde aille voter en avril. C'est pour ça que je veux recevoir tout le monde. Je veux montrer tout le casting et dire aux gens, voilà, moi je ne vous dis pas pour qui aller voter, parce que c'est vous qui décidez. Moi, je ne suis pas un donneur de leçons, je ne dirai jamais à voter pour un tel ou ne votez pas pour un tel. Mais regardez tout le casting qui vous est présenté. Regardez tous les hommes, parce qu'on vote pour un homme hein, lors d'une présidentielle, qui vous sont présentés. Regardez-les chez
femme,
moi.
Sinon
ou une femme,
reprendre.
Exactement. Exactement, c'est vrai, parce qu'il y a, bon, il y a de nombreuses femmes qui vont. J'espère qu'il y aura, il y aura Anne Hidalgo, Marine Le Pen, Valérie Pécresse. On a raté Sandrine Rousseau. Dommage, même si j'aime beaucoup Yannick Jadot.
Voilà. Vous croyez dans les vertus de l'agora vous voulez que les gens s'expriment oui. Tant pis si ça choque, tant pis si ce sont des balivernes parfois. Au fond, vous faites la course avec les réseaux sociaux, vous.
Je ne fais pas la course avec les réseaux sociaux, mais c'est vrai que j'aime bien quand les gens viennent s'exprimer chez moi. Moi, je pense toujours qu'il faut des contradicteurs. Et qu'au contraire, pour moi, la télé, les médias, c'est un peu comme dans la vie. C'est-à-dire qu'on peut s'engueuler, on peut exposer des idées complètement différentes, mais à la fin... il en restera toujours quelque chose. Et je sais que même si... c'est comme quand votre père vous dit un truc et que vous lui dites « Non, non, mais c'est bon, tu dis des bêtises. » Je sais que quand vous rentrez chez vous, vous vous dites « Il n'avait peut-être pas tort sur deux, trois trucs. » Et vous réfléchissez.
Mais c'est pour ça qu'on vous en veut parfois. Parce que vous invitez des gens qui parfois disent des idées psy et qu'on risque de les prendre de sérieux. Mais c'est quelque chose qui revient souvent chez vous dans votre livre. Vous dites qu'il faut laisser parler certaines personnes, même si elles disent des idées psy, pour que ceux qui pensent comme elles ne se sentent pas exclus de la télévision.
Mais... parce que y a toutes les opinions sont les bienvenues sur mon plateau. Pourquoi ? Parce qu'il y a des contradictions, et souvent, je l'ai vu moi, sur mon plateau, les gens qui ont des idées qui ne tiennent pas debout, on le voit en débat, ça fait très vite pchit. Et forcément, les gens qui pensent comme eux à la télévision se disent « Tu veux que je te dise, peut-être qu'en fait, je pensais des conneries comme lui, parce que regarde, il s'est fait contrecarrer en quelques minutes, et c'est vrai qu'il n'a pas d'argument derrière. » Ça aussi, c'est ça qui m'intéresse aussi. Et c'est souvent ce qui se passe en plateau. Après, il y en a qui arrivent à débattre voilà, beaucoup plus longtemps sur des idées complètement ubuesques.
Tout le monde est le bienvenu dans votre émission. Dites-vous qu'il porte un voile, une kippa ou rien du tout. Ça aussi, vous le dites, hein, vous voulez jeter des ponts entre des mondes qui ne se parlent plus. Mais la tolérance n'est plus tout à fait à la mode, hein, vous avez dû le remarquer. Le débat non plus n'est pas forcément dans l'air du temps. Si demain, ça faisait plus du tout d'audience, vous renonceriez ?
Non, parce que je ne pense pas. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'aime l'être humain, je crois encore en l'être humain, je crois quand même encore aux vertus de la tolérance, et je pense qu'au contraire, moi je ne suis pas sûr que la tolérance ne soit plus à la mode, je pense qu'au contraire, les gens ne demandent qu'une chose, c'est qu'elle redevienne à la mode. Alors là, j'entends des discours partout, sur plein de médias, voilà, qui sont des discours souvent de haine, mais où il n'y a pas de contradicteurs. Nous, voilà, on essaie vraiment de montrer qu'il y a toujours, en fait, un juste milieu. Il faut arrêter d'être... les extrêmes aujourd'hui, c'est eux qui ont pris l'espace médiatique. Ce qu'on voit aujourd'hui, la campagne présidentielle, cette campagne présidentielle de 2022, elle n'est faite que par les extrêmes pour l'instant. On n'entend que les extrêmes. On entend ou la France insoumise, ou Éric Zemmour, ou Marine Le Pen. Au milieu, le président, il est au-dessus pour l'instant, il regarde un petit peu ce qui se passe. Les partis traditionnels, ils sont très très en retrait. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on donne tellement la parole aux extrêmes que on n'arrive pas à trouver un consensus en fait entre les deux et un juste milieu pour dire voilà, vous n'êtes pas tort sur certains sujets, vous avez raison sur certains trucs, mais parlez-vous au moins et essayez de trouver des accords. Et je le vois, moi je l'ai vu moi quand Jean-Luc Mélenchon est venu chez moi. Jean-Luc Mélenchon, il est parti. Je pense qu'il avait un peu évolué sur ses idées sur deux trois trucs. Voilà. Après, Jean-Luc Mélenchon, c'est dur de le faire changer d'avis. Mais il est extrêmement sympathique. C'est vrai que voilà, je l'ai dit hein, dans le livre. C'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, quand vous discutez avec lui, vous passez un bon moment. C'est aussi ça. C'est que moi, je passe des bons moments avec eux parce qu'ils me font marrer. Ce sont des candidats, c'est des bêtes des médias. Tous, hein, voilà, tous ceux qui viennent sur le plateau, à chaque fois, on sait qu'on va pouvoir les voir autrement aussi.
Merci Cyril Hanouna d'être venu dans cette émission.
Merci,
ce
Frédéric.
Que m'ont dit les Français, ça vient de paraître aux éditions Fayard. On se retrouve
vous
dans un instant.
Le titre de mon prochain livre ?
Non.
Ça sera J'aurais voulu être Frédéric Tadine.
Voilà. Vous voulez m'attirer des ennuis. Hein.
Non, mais alors, je dis un truc. C'est moi qui l'aime. Lui, il n'a jamais rien dit sur moi. C'est moi qui l'aime. Il ne peut pas m'empêcher de l'aimer. C'est comme, voilà, Pascal Obispo avec Michel Polnareff. Merci.
Le livre est paru aux éditions Fayard. On se retrouve juste après une pause avec une chanteuse, Daphné Critaras.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Tadei sur Europe 1.
Daphné Critaras, je suis ravi de vous recevoir ce matin sur Europe 1. Vous serez en concert à l'Alhambra à Paris demain à 20h pour la sortie de votre nouvel album, Varka. Ça veut dire quoi, Varka ?
Merci beaucoup de m'inviter d'abord. Et Varka, ça veut dire la barque. La barque, c'est la barque qui relie les peuples entre eux, qui relie aussi les musiques entre elles. Et c'est aussi celle qui relie le monde vivant au monde des morts. En dessous la surface et au-dessus la surface.
Ah oui, les Grecs comme les Égyptiens alors. votre album, quand on l'écoute, on a l'impression de se retrouver dans les fêtes de village en Grèce pendant l'été ou dans les tavernes athéniennes enfumées. On va écouter tout de suite un morceau, un extrait. C'est du Rebetiko et ça veut dire quand tu prends de l'héroïne.
Absolument.
Et ben, on vous écoute.
Με πρέζα στέκω στη ζωή κι όλος ο κόσμος κατακτώ την ασπρή σκόνη σαν ρουφό. Όλος ο κόσμος είναι θύμα μου σαν έχω πρέζα και ρουφά κι πολιτσμάνοι όταν θα με έρθουν μελανιά μου λαό. Οπα. Σαν μαστουραθείς γίνεσαι ευθύς βασιλείας δικτάτουρας, θεός και κοσμοκράτουρας. Πρέζα όταν γης βρε θα εμφρανθείς κι όλα πια στον κόσμο ρόδινα θα να τα δεις. Άιντε!
Alors c'est du Rebetiko, hein, cette musique populaire grecque que l'on associe aussi, à tort ou à raison en France, à une chanson, Les Enfants du Pirée, qui a fait le tour du monde en 1960, interprétée par Mélina Mercouri dans le film Jamais le dimanche de Jules Dassin, où elle jouait une prostituée joyeuse, chaleureuse. Quand tu prends de l'héroïne, c'est une métaphore ?
C'est à la fois du concret et une métaphore parce que c'est, en fait, c'est une chanson qui a été écrite par des dealers. Donc, en fait, ils voulaient tout simplement inciter les gens qui écoutaient la chanson à prendre de l'héroïne.
C'était une très ancienne chanson.
Bien sûr, c'est une chanson qui date des années 20, qui a été enregistrée dans les années 30. Et c'est aussi une critique lancée aux politiques de l'État. En tout cas, elle a été modifiée ensuite et dans les années 30, sous la dictature de Metaxas, quand elle a été enregistrée. En fait, c'est... il faut savoir que le Rebetiko était interdit. Et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'ils construisaient les bouzoukis. Il y avait plusieurs tailles de bouzoukis. Il y avait des bouzoukis qui étaient tout petits.
Pour pouvoir
s'enfuir. Des baglamas, pour pouvoir les mettre voilà, sous le manteau. Et c'est une chanson qui dit que voilà, du matin au soir, je danse avec la poudre blanche. Et même si je suis le dernier des derniers, eh bien, quand je prends cette poudre blanche, j'ai l'impression de devenir comme Dieu, comme les dictateurs qui nous gouvernent, comme les cosmocrates. Et comme eux, même si la Grèce tombe en cendres, eh bien, on la jouera au dé. Et c'est une façon en fait de critiquer l'État qui dit qui vend de la Grèce, en gros.
Oui, la Grèce a toujours été vendue plus ou moins par l'État. Vous êtes né d'un père grec et d'une mère française. Vous chantez dans combien de langues, Daphné Kritaras ?
Je chante dans plein de langues. Notamment, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la musique qui a été brassée pendant l'Empire ottoman, donc toutes ces cultures-là. Donc il y a le grec, l'arménien, le judéo-espagnol, autrement appelé le ladino. Il y a également le bosniaque. Il y a toutes ces langues-là, en tout cas, qui m'intéressent. Il y en a même qui sont très peu parlées, le judéo-espagnol, par exemple. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est quand, en fait, il y a une chanson qui existe dans plusieurs langues, comme ça,
et on peut choisir.
Voilà, c'est ça. Et c'est super parce que du coup, cette chanson relie tous ces peuples-là qui parfois ont des gouvernements opposés, comme la Grèce et la Turquie, par exemple.
On va écouter une chanson que vous chantez en bosniaque, qui est très proche du serbe. Hein. Ça s'intitule en français Dans le Bosphore d'Istanbul. On vous écoute.
Душа моя на измаку цереной земли тежи. Молитва е не музвета, док мой син с минарета очи на саглас. Ауэлла, йолэлла, саламалеку. Ауэлла, йолэлла, саламалеку.
Daphné Critaras, quand je vous regarde dans le studio, vous êtes très jeune, vous êtes très souriante, et quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous n'avez pas d'âge.
Bah, c'est gentil. Je ne sais pas comment répondre à ce...
Non, mais vous avez un timbre qui pourrait être celui d'une femme très mûre.
Bah, c'est le chant, en tout cas, c'est quelque chose que je pratique depuis toujours, comme une seconde respiration. Et peut-être que, je ne sais pas, à force de chanter, parce que je chante tout le temps, quand je suis toute seule, tout ça, depuis toute petite, peut-être que ça, je ne sais pas, ça a peut-être évolué d'une certaine façon.
Peut-être parce que aussi vous chantez l'exil, l'amour, la mer, la nostalgie, la tragédie, beaucoup.
Je chante beaucoup la tragédie, c'est vrai, il y a des, comment dire, des thèmes que j'ai envie d'exprimer, non pas parce que je l'ai vécu forcément du tout, c'est
ni
d'ailleurs
parce
le principe
grec.
De l'interprète.
Ni parce que c'est grec.
Ni bien sûr parce que c'est grec, mais tout simplement parce que j'ai envie de retransmettre une émotion que quand j'ai écouté la chanson, je me suis dit, tiens, j'ai envie de me l'approprier complètement pour pouvoir en ressortir quelque chose, essayer de l'intensifier encore plus. Enfin, c'est peut-être un peu prétentieux d'ailleurs de dire ça, mais en tout cas, c'est ce que je ressens quand j'interprète une chanson. Et mon but, d'ailleurs, dans le chant, c'est de ne plus contrôler rien du tout. C'est-à-dire de vivre des moments de grâce. Et ça, c'est pas évident, surtout quand on chante beaucoup, quand on fait beaucoup de concerts. Et ben, en fait, on a envie de retrouver cet état de façon permanente qui nous permet de voler un peu comme la drogue, d'une certaine façon.
On va vous écouter voler en judéo-espagnol cette fois-ci. Le repas du lendemain, c'est le titre de la chanson.
La comida la mañana la tendré, la traigo atrás. Que lo sepa la mi madre que yo quiero esposar. Que lo sepa la mi madre que yo quiero esposar. Yo hice el amor con tu padre, salió vera y me tomó. Yo hice el amor con tu padre, salió vera y me tomó. Los mancevicos de agora fondechan con la dolor. Los mancevicos de agora fondechan con la dolor. No se burle.
Daphné Critaras, vous serez donc en concert demain à 20h à l'Alhambra. Est-ce que pendant le confinement, vous avez fait partie de tous ces artistes qui ont joué sur le balcon pour leurs voisins ?
Mais exactement.
Je vous voyais bien.
C'est vrai. En fait, j'ai la chance d'habiter à Montreuil. Et Montreuil, en plus, donnait des cachets pour les personnes qui, dans le cadre de Montreuil au balcon, jouaient. Et donc, j'ai eu cette occasion de jouer. Donc, j'ai la chance de vivre avec mon copain, mon compagnon.
Qui est aussi votre principal musicien.
Absolument, c'est mon guitariste. Puis d'ailleurs, c'est un incroyable auteur, compositeur, interprète de chansons en français. Et voilà, on a pu nous produire sur Montreuil au balcon.
Merci d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. Varka, c'est votre nouvel album. Et puis l'Alhambra, demain à 20h.
Europe 1.
C'est arrivé cette semaine, se termine. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Pierre de Villeneuve et les grandes voix d'Europe 1. Quel est le programme, Pierre ?
Alors nous, on ne chantera pas sur le balcon, mais on parlera de Macron et de ses alliés, de Zemmour, les sondages et les punchlines qui hérissent, et le secret de la confession versus les lois de la République.
Bonne émission.
Merci.